Léon Cladel, Irène. On respire ici, se dit tout d'abord à part soi René de Bergoïs, en arpentant à la brune en mai les larges trottoirs qui bordent le boulevard des Capucines et celui des Italiens. Ensuite, il ajouta, fatigué de sa monotone promenade, qui aurait pendant 30 ou 40 minutes duré, « Ah, tout irait bien si je heurtais quelqu'un à qui parler. » Et machinalement, il regardait à sa droite comme à sa gauche le flot d'oisifs qui, tout en nage, foulait le bitume et le macadam autour de lui. Que de coureuses tentaient leurs amorces et que de désœuvrés s'y prenaient volontiers. Assourdi par le roulement des omnibus et des fiacres, ainsi que par la rumeur des passants, et las enfin de ce spectacle qui s'offre quotidiennement aux yeux des citadins, toujours divers et non moins nombreux, il se disposait à franchir la chaussée encombrée par la foule, lorsqu'il avisa, sous la tente de l'un des grands cafés avoisinant l'opéra, certaines figures de sa connaissance. Ah, c'était bien lui, oui, vraiment, très irréprochablement vêtu, le stick au bout des ongles, l'orgnon ancré sous l'arcade sourcilière, un cigare au bec. Ulrich ! Assez surpris de s'entendre appeler par le prénom aussi rare que prétentieux dont il avait été, sans pouvoir s'en défendre, orné sur les fonds baptismaux, le consommateur, un peu somnolent, qui lançait à son insu des bouffées de fumée au fond des bocs qu'il avait absorbés, ouvrit un œil, puis l'autre, et montra, dressant la tête, un fort long nez et tout son visage extrêmement mélancolique. « Oh, ça, que deviens-tu, toi ? Léon ne te rencontre plus nulle part. Hier soir, aux Français, remarquez ton absence, et tous ceux qui n'ignorent point pour qui tu brûles en étaient abasourdis. Oui, ils sont très bons de songer à moi, vraiment. Mais là, t'es superbe, magnifique, astral, dans Miranda. Qui donc ? Et parbleu, mon cher, tu le sais bien. Non pas ? Si fait, oh, tais-toi, ne me parle point de cette créature. Hein ? Non, 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 jamais, si tu m'affectionnes tant soit peu. Comment ? Ainsi, tu plaisantes. Oh, pas du tout. Et de Norwell, Ulrich, ayant demandé de la fine champagne, en engloutit plusieurs petits verres successivement, tandis que son vis-à-vis éberlué ne se permettait plus de souffler d'autres mots que ceci. Tiens, tiens. Sacrebleu, reprit-il enfin son ancien condisciple au lycée d'Albi, causons-en une seconde, puisque ça te plaît. Ben, excuse-moi, je te prie, on te supposait très heureux. Heureux. Et force gens eussent voulu, je t'assure, être à ta place. Oh, je leur céderai sans regret. Hier, oui, hier encore, j'étais aux anges. Cela depuis le jour récemment élu député, moi, républicain par les ouvriers royalistes de mon pays, je l'aperçus du haut de la tribune du Palais Bourbon, où je tremblais de tous mes membres, en haranguant mes collègues émerveillés de mon aplomb. Elle était là, toute mignonne et si frêle, penchée hors de sa loge, en blanc comme les fiancés. Sa chevelure de lionne flottait sur son corsage de satin, et toutes les flammes du paradis s'étaient allumées en ses prunelles noires comme la nuit. Bien, il me semble que vous avez salué cette dame, dis-je négligemment, après être revenu tout pensif à mon banc, au vieux marquis de Rongemorne, qui, simple réactionnaire, s'accommoderait aussi bien d'un Orléans que d'un Bonaparte, et de Henri V autant que de Gambetta. La connaissez-vous ? « Oui, me répliqua-t-il en souriant de haut en bas, et j'ai pour elle une estime toute particulière. Il y aura bientôt un an que je la vis pour la première fois chez mon excellent ami, le général-duc de Camiche. Ah, ça, mais vous n'entendez donc jamais dans la maison de Molière, vous? Si, parfois. Eh bien alors, vous avez déjà dû l'applaudir un soir de première avec le tout Paris. Ah, Irène, est-ce Irène? Au monde, mais il n'y en a qu'une seule, et c'est elle-même. Oh, je ne l'aurais pas reconnue. Elle si blonde, je la croyais brune. Elle l'est, en effet, plus que Diane et plus que Junon, dans Bataille des dieux et dans une transtévérine aussi, mais chez elle et dans la rue, elle a la même toison que Cypris ou Phébé. Vous conviendrait-il de lui être présenté? Ah, oui. Rien de plus facile, elle déclamera mercredi prochain les imprécations de Camille au noble faubourg, chez la baronne de Chèvrebœuf, une bretonne bretonnante comme sa cousine Germaine, mademoiselle de Lordpré, ma femme. Eh bien, si vous ne craignez rien de vous fourvoyer au milieu des meilleurs défenseurs du trône et de l'autel, suivez-moi donc après-demain au carrefour de Grenelle-Saint-Germain, et là vous aurez le plaisir d'entendre et de voir de très près la favorite du peuple parisien, le plus turbulent de la terre, qui ne se trouve jamais assez puni de ses erreurs et de ses péchés, l'incorrigible étourdi. Mais continue donc, cela m'intéresse au plus haut point. Oh, la suite est moins riante. Or, le lendemain, j'accompagnais le représentant de Quimper chez sa compatriote, et là, je reçus ce que j'avais précédemment toujours nié, ce qu'on appelle un coup de foudre. En aucun lieu, jamais une Ève plus séduisante que cette grêle enfant gâtée, à la fois divine et diabolique. Et sa parole, qui vibre comme le cristal et l'or, me grisa. Alors j'avais eu l'agrément de m'entretenir avec elle, qui m'invita brusquement et gracieusement à ses soirées. Si j'acceptais, tu n'en doutes point. Et de ce jour-là, je redevins poète et rimais des odes, des madrigaux, des sonnets, des acrostiches en son honneur. Elle les accueillit à merveille, et plus que jamais enamourée de cette souveraine presque impondérable, j'eus bientôt ou trop tôt la hardiesse de me jeter à ses pieds. Elle me releva fort tendrement, me promit tout et ne tint rien. Néanmoins, je persistais. Que veux-tu ? Je l'aimais au point de me contenter de mon lot. Et je l'aimerais encore si je pouvais oublier l'autre. Ah, ça, voyons, es-tu fou ? L'autre, qui, quoi ? J'en rougis. Et très agité, honteux, le narrateur se leva, prit le bras de son ancien copain et l'entraîna précipitamment vers la Madeleine, où, selon toute probabilité, il l'eût quitté sans achever des confidences, si celui-ci, très curieux de son naturel, l'eût été moins en cette circonstance. « Il me faut, insista-t-il, le mot de l'énigme, et je ne te lâche point avant qu'il ne soit sorti de ta bouche. » Eh bien, poussons jusqu'aux Champs-Élysées. Si les étoiles et les brises me rendent communicatif, je te révélerai tout. Ils s'installèrent aussitôt dans une Victoria. Le cocher atteignit en un instant la place de la Concorde, et la voiture roula sous un ciel d'azur ravivé d'argent. Taciturne jusqu'au rond-point, au-delà du palais de l'industrie, Ulrich considérait la lune et les planètes. Elle y prendra un rang plus tard, hasarda René, mais pour le moment elle ne bouge pas si haut, j'imagine. Oh non, certes, elle se complaît ici bas, et même très bas. Sois satisfait. Allez, écoute-moi. Raconte. Puis on prétend que Paris est la pompe aspirante de toutes les intelligences. Ah, cela, point ne contredirait, mais s'il est exact que tous les esprits de France et d'ailleurs y sont invinciblement attirés, accorde-moi que les moutons de panurge de l'univers en ont fait aussi leur habitacle de prédilection. Et ce sont eux, ces routiniers, ces philistins, ces cancres, accourus des quatre points cardinaux, qui depuis longtemps y forment ce qu'on nomme l'opinion publique. Entre 1000 preuves de ce que j'avance, une seule, je présume, suffira. Qu'est-ce que Saint-Javot, un plumitif devant qui tremble tous les artistes, ceux qui sertissent les vers ou taillent de la prose autant et plus encore que ceux qui les déclament ou la récitent sur les planches des théâtres. Ses talents, au fou, il n'en a qu'un seul, incontestable, celui-là, penser pleinement, platement, écrire de même. Oui, mais ce qu'il sert au jour le jour à son énorme clientèle, et cela même qui remue la bêtise, l'étincelle bêtise au fond de taureau que flagelle la Baudelaire, et tous les obtus du négoce et de la finance, découvrant en lui leur fidèle porte-voix, l'écoutent comme un écho, puis se contemplent dans ses phrases peu limpides pourtant, comme dans le miroir d'une onde pure. Il est leur truchement, leur interprète, leur traducteur. Et de même qu'ils s'imposent par leur fortune ou par leur crédit, sa plume à lui, sa grosse plume d'oie, tranche, décide, fait la loi. La première fois que le hasard me mit en présence de ce lourdeau, je le sus me défendre d'admirer sa laideur. Avec sa face rougeaude que boursouflent les pustules, ses oreilles asines, ses yeux écarquillés, son ventre pachyderme, ses lèvres lipues, sa démarche d'augure, il me représente l'idéal de la suffisance et de la médiocrité, le prototype du moderne monsieur Tout-le-Monde, empereur, pape et roi. C'est lui, lui que doivent subir le poète, le musicien, le comédien, l'impresario, le peintre, le statuaire. C'est le juge suprême, l'universel régent, le pio général. On l'a bien vu du reste quand la superbe tragédienne italienne parut à l'Odéon. Nul parmi les oies innumérables dont se compose son troupeau, nul n'osa s'enthousiasmer pour elle avant que lui, le berger, le pasteur, n'en eût donné le signal. Et ce signal, il ne le donna point. Et pourquoi? Parce qu'en le donnant, il eut perdu l'unique chance d'obtenir ce qu'il désirait ardemment en vain, les faveurs de cette incomparable folle que tous les sages de notre génération adorèrent, adorent, adoreront, car elle émane ce parfum de luxure que répandait partout autour de soi cette blanche amaltée dont les titans, les hommes et les dieux s'éprirent. Toutes les grâces les avaient en partage. Elle était, sinon la parfaite beauté du moins, tout le charme visible et tangible. Mais elle était femme, et cette femme reine ne put admettre une rivale dans Paris, la jalouse. Alors, en cachette, à l'insu de tous, elle s'offrit tout entière et peut-être sans dégoût au monstre bardé de sottises dont elle avait eu jusqu'à ce moment-là toujours horreur, et lui, l'arbitre infaillible, pontife des pontifs, s'acquitta des dettes qu'il avait contractées envers elle. En prononçant que l'étrangère, la latine, la romaine, si majestueuse et si grande qu'elle fût, n'allait pas à la cheville de notre Thalie française, inférieure pourtant, très inférieure, comme puissance dramatique à la Guerrozzi. L'arrêt de l'oracle fut ratifié par le bon public et la déesse parisienne resta dans les nues. Oui, mais à quel prix? Mais achève, achève donc. Oh, que je vive 100 ans et plus, il m'en souviendra jusqu'à ma dernière heure du parc aux roses de Saint-Cloud et de ce dont j'y fus témoin naguère, en la villa de cette ravissante et terrible idole qui, pour fêter son triomphe, avait appelé là ses plus célèbres adorateurs. Il était environ minuit, tout dormait déjà. Les invités, ayant ravivé leurs chères blessures, se hâtaient vers la gare où sifflaient et mugissaient les locomotives du dernier train. Seul, moi seul, j'irai à l'aventure dans les bocages éclairés d'El Giorno. Ne pouvant me résoudre à battre en retraite, je m'assis sur un tertre entre deux magnolias et je rêvais, planant sur les eaux de la Seine en qui se réverbéraient tous les frissons des astres nocturnes. Et soudain, au-delà de l'ombre dont j'étais environné, des chuchotements et des soupirs bruirent parmi le feuillage, et mes yeux se fixèrent sur les persiennes d'un pavillon à travers lesquels filtraient des lueurs versicolores. Oh, je le savais, c'était là le sanctuaire où tant d'autres avaient pénétré, mais dont moi, je n'avais jamais franchi le seuil. Une curiosité despotique me poussant, je m'approchai lentement sur la pointe du pied, retenant ma respiration comme un voleur. Entrouverte au rez-de-chaussée, une fenêtre semblait me convier à l'escalader, à l'assaut de ce nid d'amour où des vieux avaient ri du rire des enfants et où des enfants avaient en pleurant bégayé comme des vieux. Hélas, je me contentais d'être indiscret. Et voici ce qui me brûla les prunelles à travers l'entrebâillement des stores. Sur une sorte de lit d'ivoire recouvert de linceul de soie noire, illuminé par les flammes des torchères, un couple, et quel couple, reposait assoupi, sinon assouvi. Lui, Javot. Elle, Irène. Oui, mon cher, elle, toute l'élégance. Unie à lui, le nec plus ultra de la balourdise. Elle, le rythme accouplé à lui, la discordance. Elle, le génie, souillé par lui, le béotisme. Il bavait en ronflant, et son groin exprimait toute la béatitude d'un élu dans le ciel. Elle, exquise, inondait de sa chevelure flamboyante l'horrible encolure squameuse et la fausse face bouffie de son conquérant et semblait en son sommeil lui glisser encore dans les oreilles toutes les mélodies de sa voix d'or. Et moi, l'épouvante que me causa cette union contre nature fut telle que je m'enfuis éperdu, mourant assassiné. Et depuis lors, que n'ai-je tenté pour les oublier, elle et lui. Très belles des consolatrices m'ont prodigué leurs soins, mais si sincères qu'elles fussent, en elles, je n'ai recherché que le souvenir de celle-là seule à qui mon cœur appartient et que je n'ai possédé ni ne posséderai jamais. Et ce n'est point à leurs lèvres que s'adressaient mes baisers. Encore, s'il m'avait été permis de savourer mon harmonieuse chimère, mais non ! Une forme hideuse et ridicule s'interpose entre elle et moi sans cesse. Et quand ma bouche ardente parcourt en songe sa chair délicate comme pour en aspirer les arômes, ce ne sont que les grasses émanations de son corps à lui, de son corps difforme et répugnant, que je hume. Il faut que je l'aime, elle, à travers lui. Oh, quelle torture! En est-il de pareil? Et je me meurs de ma passion, désormais sans objet, car je ne veux pas d'elle après lui. Bien, voilà. Qui sais à présent tout ce que tu tenais tant à savoir. René, plains-moi. Je te plains, mon pauvre Ulrich, mais paie-moi de retour, car Irène était aussi mon rêve, et de même que toi, j'y renonce par horreur du trop réel Saint-Javot. Et tous les deux, émus et crispés, regagnèrent le boulevard des Capucines, d'où, descendu de voiture et s'étant serré la main, Ils se quittèrent sans rompre le silence que depuis l'arc de triomphe de l'étoile, ils avaient gardé jusque-là.